Bonjour Pierrick Bonneau, bonjour à tous. Oui, direction le Brésil et sa crise politique, une crise pas toujours très bien comprise ni très bien expliquée de ce côté-ci de l'Atlantique, si l'on en croit en tout cas les auditeurs qui nous ont écrit. Il est vrai que lorsque France Info évoque au quotidien le feuilleton, la destitution de la présidente Dilma Rousseff ou les manifestations de soutien ou d'opposition, il est difficile, voire impossible, de rentrer dans tous les détails de cette situation quand même complexe. Alice Serrano, bonjour.
Bonjour Bruno.
Vous êtes grand reporter à France Info et vous venez de passer une semaine au Brésil. Vous avez pu véritablement vous plonger dans la situation politique en rencontrant des Brésiliens de tous bords. Mais des auditeurs vous ont reproché dans un premier temps de vous focaliser sur les opposants à Dilma Rousseff.
Alors, c'est vrai qu'à France Info, on a fait un choix, une ligne éditoriale. En fait, on a suivi une ligne éditoriale. C'était d'essayer de comprendre qui étaient les anti-Dilma, qui manifestaient dans la rue pour la destitution de Dilma, ce qu'on appelle les coxinhas là-bas au Brésil. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au même moment, naissait à Paris le mouvement Nuit Debout et on se demandait justement s'il y avait des signes
Rapprochements possibles.
Voilà, entre les deux mouvements. Parce que de France, c'était un petit peu compliqué de comprendre ce qui se passait au Brésil. Et donc, on a choisi d'aller à Sao Paulo, qui est le poumon économique du pays et qui est un petit peu le fer de lance de la contestation. On a choisi de suivre, notamment pour l'avant-sujet qui a été diffusé le dimanche matin, la veille du vote à l'Assemblée nationale sur le début du processus de destitution de Dilma Rousseff. On a choisi de suivre justement ces manifestants anti-Dilma. Et là, j'ai compris que c'était la classe moyenne et la classe moyenne supérieure, que c'était une classe moyenne qui avait profité de l'embellie du Brésil et qui était aujourd'hui pleinement touchée de plein fouet, notamment pour la classe moyenne, par la crise qui sévit actuellement au Brésil. Vous savez que le chômage a doublé, que l'inflation grimpe en flèche. Donc Dilma Rousseff était quelque part accusée de tous les maux, accusée de cette crise économique, accusée de corruption. Elle cristallisait tous les mécontentements. Et là, on s'est rendu compte que finalement, ce mouvement ne ressemblait pas à Nuit Debout, mais ressemblait plus au Manif pour tous, c'est-à-dire que c'était plutôt des habitants conservateurs, catholiques, contre les unions homosexuelles. Et on s'est rendu compte donc que ces manifestants avaient une haine viscérale contre Dilma Rousseff. Et c'est la raison aussi pour laquelle on les a suivis après toute la journée de dimanche et dans la nuit de dimanche à lundi, dans la nuit du vote, jusqu'au vote donc le lundi matin.
En tout cas, voilà des précisions importantes. Et d'ailleurs, je vais apporter une petite précision en tant que médiateur sur des sujets de politique intérieure ou internationale. Certains d'entre vous reprochent un parti pris de France Info parce qu'ils ont entendu un reportage sur un angle précis. Par exemple, en effet, les opposants à Dilma Rousseff. Mais comme vous n'écoutez pas en permanence l'antenne, ce qui peut tout à fait se comprendre d'ailleurs, il est possible que vous n'ayez pas entendu le reportage sur ses partisans et vous croyez alors que France Info ne s'intéresse qu'à un seul camp, ce qui évidemment n'est pas la réalité.
D'ailleurs, le lendemain matin, on a fait un sujet sur les pro-Dilma. On a suivi des manifestants pour Dilma Rousseff et pas uniquement des militants du Parti des Travailleurs, mais également des citoyens qui dénonçaient ce qu'ils appelaient, eux, un coup d'État. Et ça, c'est assez intéressant. C'est-à-dire que ça ne touchait pas uniquement les militants, mais quand même une partie de la population qui dénonce le processus en cours.
Alors, revenons d'ailleurs sur cette complexité. Justement, par exemple, il y a un auditeur, Mathieu, qui nous a écrit, entendre les journalistes, on aurait presque l'impression dichotomique, la méchante Dilma corrompue, seule contre tous.
Et en effet, ce n'est pas si simple, hein, parce que c'est sûr que les Brésiliens en ont assez de la corruption. C'est ce que j'ai entendu constamment dans la rue. Le juge Moreau qui a mis au jour le système du lavage à taux, vous savez, le système de corruption dans lequel trempe un grand nombre de partis politiques, dont le Parti des Travailleurs, mais aussi le PMDB, hein, la droite.
La droite aussi, oui.
C'est sûr que ce ras-le-bol, la droite s'en sont aussi servis. En fait, la présidente, comme je vous le disais tout à l'heure, est accusée finalement de tous les maux, de la crise économique, puisqu'elle a mis en place quand même une politique d'austérité, de l'inflation, du chômage, de la baisse du pouvoir d'achat, et la droite seulement en profite. Seulement le vice-président Michel Temer, qui pourrait succéder à Dilma Rousseff si Dilma Rousseff était destituée, et le président de la Chambre des députés, Eduardo Cunha, sont eux aussi impliqués
encore
dans des affaires.
Encore plus impliqués peut-être qu'elle, d'ailleurs.
Eduardo Cunha, beaucoup plus, certainement, puisqu'on a découvert grâce aux Panama Papers qu'il cachait un compte en Suisse. Alors qu'il faut quand même le souligner, Dilma n'est pas accusée de corruption. Si elle tombe, ce ne sera pas pour ça.
Alors dans des affaires complexes comme celle-ci, l'idéal, bien sûr, c'est d'envoyer des reporters sur place. C'est ce que vous avez fait, vous étiez sur place. Alice, et vous avez pu travailler, mais on travaille d'une manière simple au Brésil ?
Moi, j'ai fait appel à ce qu'on appelle un fixeur dans le jargon journalistique, c'est-à-dire c'est une traductrice, mais qui permet aussi de comprendre la politique sur place et de nous guider dans les rues de Sao Paulo, puis ensuite dans les rues de Rio. C'est pas compliqué de travailler au Brésil, il faut juste être patient, parce que les rendez-vous prennent du temps. Voilà, on nous dit oui, puis après on nous dit non, puis après on nous répond plus au téléphone. Tout simplement, c'est un non, en fait. Après,
il y a des côtés un petit peu dangereux, quand même. Il y a des gangs, les favelas, c'est pas toujours très sûr.
Alors voilà, c'est la raison pour laquelle c'est bien d'avoir d'avoir un fixeur. C'est pour rentrer dans les favelas. Moi, je suis rentrée dans 3 favelas différentes, des favelas plus ou moins dangereuses. C'est quand même bien de connaître quelqu'un, d'être introduit dans ces favelas, que ce soit par des habitants ou par des associations. Ce qui s'est passé, donc moi, je n'avais pas un sentiment d'insécurité. Après, il faut faire attention, hein. Comme quand on voyage, pas de bijoux, avoir une allure assez simple.
Éviter la nuit peut-être aussi.
Éviter la nuit, tout à fait. Mais là, c'était le jour et je vous avoue qu'on a entendu quand même pas mal de coups de feu. Donc voilà, il faut juste le savoir.
C'est pas des coups de feu de joie, non?
Pas forcément. Des règlements de compte plutôt.
Et vous avez également ramené d'ailleurs des reportages sur l'ultime préparation des Jeux Olympiques. Là, les journalistes sportifs du monde entier vont s'enthousiasmer. Mais qu'en dit-on vraiment sur place ?
Alors, les Jeux Olympiques, pour être tout à fait honnête, à 100 jours des Jeux Olympiques, les Brésiliens n'y accordent vraiment pas beaucoup d'importance. Tout simplement parce qu'ils sont secoués par 2 crises majeures. Une crise politique, ils ne savent même pas dans 3 mois qui va ouvrir la cérémonie Jeux Olympiques, quel va être le président, quand même. Et une crise économique majeure, je vous le disais, le chômage qui a doublé, une inflation. Les Brésiliens ont les yeux rivés sur leur pouvoir d'achat. Il faut dire que l'inflation grimpe vraiment, hein. Nous, on s'est rendu compte qu'en 6 mois, par exemple, le prix d'une pomme de terre a été multiplié par 7 en 6 mois. En sachant que la pomme de terre, c'est quand même l'un des aliments principaux des Brésiliens. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est quand même leur préoccupation principale, c'est ça. Puis il faut aussi savoir qu'un billet pour une finale de rugby pour les Jeux Olympiques coûte la moitié du salaire minimum au Brésil. Donc vous voyez, c'est compliqué. Sachez en tout cas que seulement la moitié des places ont été vendues déjà pour les Jeux Olympiques.
Alice Serrano, grand reporter à France Info, merci pour toutes ces précisions.